Chapitre 30. Notre tapis Hawking dut présenter l'aspect d'un objet flou en mouvement durant notre retour précipité au vaisseau. Je demandai à celui-ci s'il pouvait nous transmettre une image holo en temps réel du Greach, mais il me répondit que la plupart de ses capteurs de coque étaient couverts de boue et qu'il ne voyait pas bien la grève.
« Il est sur la grève ? » interrogeai-je.
« Il y était il y a un instant, quand je suis sorti pour déposer un nouveau chargement. » me répondit la voix de l'androïde. Ensuite, il est allé dans l'anneau accumulateur de la tuyère Hawking, précisa Abetik.
Quoi ? Il n'y a pas d'accès à cette partie du vaisseau ?
Je m'interrompis avant de me ridiculiser complètement.
Où est-il à présent ?
Nous ne savons plus très bien, fit Abetik. Je vais sortir sur la coque avec l'une des radios. Le vaisseau vous relaiera mes observations.
Attendez !
Commençai-je. À Chandimion, m'interrompit l'androïde. Je n'ai pas appelé pour précipiter votre retour ici. Je suggère au contraire que Achéné et vous prolongiez un peu votre excursion jusqu'à ce que le vaisseau et moi en sachions plus sur les intentions de notre visiteur.
Cela me paraissait logique. Mon rôle était de protéger la fillette, et qu'est-ce que je faisais quand la plus formidable machine à tuer de toute la galaxie se montrait dans le coin ?
Je me précipitais à sa rencontre. J'étais décidément de plus en plus con aujourd'hui.
Je tendis la main vers les fils de vol pour nous ralentir et mettre le cap à l'est, mais la petite main d'aînée se posa sur la mienne pour m'en empêcher.
« Non !» me dit-elle. « On rentre !»
Je secouai la tête. « Cette créature est... »
« Cette créature peut aller exactement où elle veut, » me dit Aîné d'une voix très grave. « Si c'était moi qu'elle voulait, ou toi, elle apparaîtrait ici même, sur ce tapis Hawking. »
L'idée me faisait froid dans le dos. Je tournais la tête de tous les côtés.
« Rentrons !»
répéta Aîné.
Je soupirais et remontais de nouveau le fleuve, un peu plus lentement cette fois-ci. Je sortis le fusil à plasma de mon paquetage et dépliai la crosse pour la bloquer.
« Il y a une chose que je ne saisis pas très bien, » murmurai-je. « Je croyais que ce monstre n'avait jamais été signalé en dehors d'Hyperion. »«
C'est vrai, » me dit Aîné.
Elle était de nouveau collée à mon dos, le nez entre mes deux omoplates, essayant de se protéger du vent que laissait passer le champ de déflexion atténué.
« Comment expliques-tu ça ? » insistai-je.
Ne me dis pas qu'il te suit.
C'est une explication logique.
La voix de la fillette était étouffée au contact de ma chemise en coton.
Pourquoi ?
Demandai-je. Elle se repoussa en arrière si fortement que je tendis instinctivement la main pour l'empêcher de basculer du tapis. Mais elle écarta ma main.
Écoute, Roll, me dit-elle, je ne connais pas toutes les réponses à toutes ces questions, d'accord ? Je ne savais pas du tout si cette chose pouvait quitter Hyperion. Et ce n'est certainement pas ce que je voulais. « Crois-moi !»«
Je te crois !» Je posais de nouveau la main sur le tapis en m'étonnant de la voir si grande à côté de la menotte d'aîné, de son petit genou, de son pied menu.
« Retournons !»
dit-elle en posant sa main sur la mienne.
« D'accord. »
Je chargeais le fusil avec un magasin de cartouches à plasma. Les enveloppes des munitions n'étaient pas séparées, mais se moulaient dans le magasin à mesure qu'elles étaient tirées. Il y avait 50 projectiles par magasin. Quand le dernier était tiré, il fallait remplacer le tout. Je mis le magasin en place d'un coup sec de la main, comme j'avais appris à le faire dans la gare nationale, réglai le sélecteur au coup par coup et m'assurai que la sécurité était bien mise. Puis je déposai l'arme sur mes genoux. Aîné me toucha l'épaule en me soufflant à l'oreille.
« Tu crois que ce truc-là peut servir à quelque chose contre le Greach ?»
Je tournai la tête pour la regarder. « Non, » répliquai-je. Nous continuâmes en direction du soleil couchant.
Abetik était seul sur l'étroite langue de sable quand nous arrivâmes. Il nous fit un grand signe de main pour nous rassurer, en nous laissant entendre qu'il n'y avait pas de danger. Mais je décrivis tout de même un cercle au-dessus des arbres avant de me poser. Le soleil était maintenant une sphère rouge en suspens, au-dessus de la jungle à l'ouest. Je posai le tapis devant la pile de caisses et de matériel préparé sur le sable par Abetik, à l'ombre de la coque du gros vaisseau.
Puis je me dressai d'un bond, le fusil à la main, le doigt sur la sécurité. « Il n'est pas revenu », me dit l'androïde. Il nous en avait déjà informé par radio, mais je demeurais laissant son alerte. L'androïde nous conduisit à un emplacement où une double empreinte, si on pouvait appeler cela ainsi, s'incrustait dans le sable. Mais on aurait plutôt dit que quelqu'un avait appuyé un très lourd accessoire de machine agricole hérissé de lames en deux endroits différents. Je m'accroupis pour examiner les empreintes en bon pisteur que j'étais. Puis je compris la futilité de cet exercice. Il est apparu là, puis à l'intérieur du vaisseau, et il a disparu. « Oui, » me dit l'androïde. « Vaisseau, est-ce que vous l'avez détecté au radar ou sur vos écrans ?»« Négatif, » fut la réponse qui sortit de mon bracelet. « Il n'y a pas d'enregistreur vidéo dans l'accumulateur de la tuyère Hawking. » « Comment savez-vous qu'il y était alors ?»« J'ai un détecteur de masse dans chacun de mes compartiments. Pour les besoins du vol, il est nécessaire que je sache exactement quelle masse est déplacée dans chaque section de ma coque. »
« Quelle est la masse qu'il déplace ?»«
1,063 tonnes. » Je demeurais figé.
« Hein ? Plus de 1 000 kilos ? C'est ridicule !»
Je me penchais de nouveau pour regarder les empreintes.
« Pas question !»«
Question !» riposta le vaisseau. « Pendant que la créature était dans l'anneau accumulateur de ma tuyère Hawking, j'ai mesuré un déplacement de masse égal à 1063 kilos exactement. Et
tout Jésus ! »
m'exclamai-je en me tournant vers Abétik. Je me demande si quelqu'un d'autre a jamais essayé de peser ce bâtard. Le Gritch fait près de 3 mètres de haut, me dit l'androïde. Rien n'empêche qu'il soit très dense. Il est également possible qu'il fasse varier sa masse en fonction des besoins.
Quel besoin !
Grommelai-je en suivant des yeux la ligne des arbres. Il faisait maintenant très noir dans l'ombre des gymnospermes dont la cime captait les derniers rayons du soleil. Des nuages s'étaient amassés dans le ciel durant les dernières minutes de notre retour. Après avoir capté quelques reflets rouges, ils étaient maintenant d'un gris terne.
Pouvez-vous faire un relevé sur les étoiles à présent ?
Demandai-je au vaisseau. Je suis prêt, répondit ce dernier. Mais il faudrait que les nuages se dissipent un peu. En attendant, je me suis livré à un ou deux autres petits calculs.
« Par exemple ?»
demanda Aîné. « Par exemple, si l'on prend pour base le mouvement du soleil au cours des quelques heures qui viennent de s'écouler, la journée sur cette planète a une durée de 18 h 6 min 51 s. En unité standard de l'ancienne hégémonie, naturellement. « Naturellement, » murmurai-je. Je me tournai vers Abétik.
Votre petit guide parle-t-il d'un monde de villégiature avec un jour d'une durée de 18 heures ?
Je n'en ai trouvé aucun à Chandimion.
Tant pis. Mais il faut décider maintenant de ce que nous allons faire ce soir. Allons-nous camper ici, rester à l'intérieur du vaisseau, ou charger tout cet équipement sur les scooters et descendre le fleuve jusqu'au prochain portail sans attendre ? Nous pourrions prendre le radeau gonflable en remorque ? C'est cette dernière solution que je préconise. Je n'ai pas trop envie de m'attarder sur ce monde si le Gritch y rôde.
Abétik leva le doigt comme un écolier pour demander la parole. « J'aurais dû vous le dire plus tôt par radio, » fit-il d'un air légèrement embarrassé. « Comme vous le savez, le compartiment AEV a subi d'importants dommages. Je n'ai pas trouvé trace d'un radeau gonflable, bien que le vaisseau se souvienne qu'il y en avait un dans son inventaire. En outre, 3 des 4 scooters sont hors d'état de marche. » Je fronçai les sourcils.
« Complètement ?»«
Oui, à Chandimion, » me dit l'androïde. « Le 4e est réparable, d'après le vaisseau, mais cela prendra plusieurs jours. »«
Merde !»
m'écriai-je.
« Quelle charge ont ces scooters ?»
interrogea Aîné. « 100 heures d'utilisation normale, » répondit mon père Soc.
La fillette fit un geste d'indifférence.
« Je ne crois pas qu'il nous aurait été très utile de toute manière. Ce n'est pas un scooter qui va changer quelque chose. Nous ne pourrions probablement pas le recharger au bout de 100 heures. »
Je me frottai la joue. Je sentis le piquant de ma barbe. Dans l'excitation de ces derniers jours, j'avais complètement oublié de me raser.
« J'y ai déjà pensé, » murmurai-je. Mais si nous emportons du matériel avec nous, le tapis Hawking n'est pas assez grand pour nous accueillir tous les trois avec nos fusils et tout le reste. Je pensais que la fillette allait nous demander d'abandonner l'équipement, mais elle nous fit une autre proposition.
« Prenons tout, »
dit-elle,
« mais pas par la voie aérienne. »
« Pas par la voie aérienne ? » L'idée de nous frayer un chemin à pied à travers cette jungle me donnait carrément la nausée. « Sans radeau gonflable, il faut ou marcher ou voler, commençais-je. »
« Rien ne nous empêche d'avoir un radeau, »
déclara Aîné.
« Nous pourrions le construire avec des troncs d'arbres et le laisser flotter dans le courant. Pas seulement sur cette section du fleuve, mais sur toutes les autres. »
Je me frottais de nouveau la joue.
Et la cataracte.
On peut faire plusieurs voyages avec le tapis Hawking. Construire le radeau en aval de la cataracte. À moins que tu ne juges la chose techniquement impossible.
Je tournais la tête en direction des gymnospermes. Leur tronc était droit, solide, juste du diamètre qu'il fallait.
C'est possible, décrétai-je.
C'est ce que nous faisions sur le camp pour remorquer de gros chargements avec les barges.
Parfait,
déclara Aîné.
On campe ici. La nuit ne devrait pas être très longue si le jour fait 18 heures standard. On commence à l'aube.
J'eus un instant d'hésitation. Je ne voulais pas prendre le pli de nous laisser commander par une fillette de 12 ans, mais ce qu'elle proposait me paraissait raisonnable.
Dommage que le vaisseau ne soit plus en état, murmurai-je. Nous aurions pu descendre le fleuve en utilisant ses répulseurs.
Aîné se mit à rire très fort.
« Jamais je n'envisagerai une chose pareille »
dit-elle en se frottant le nez.
« C'est tout ce qui manque. Nous passerions aussi inaperçus qu'un teckel qui veut se faire tout petit sous des arceaux de croquet. »
« Qu'est-ce que c'est qu'un teckel ? »
demandai-je.
« Qu'est-ce que c'est qu'un arceau de croquet ? »
demanda Abétic.
« Peu importe !»
fit Aîné.
« Vous êtes d'accord tous les deux pour passer la nuit ici et construire un radeau demain ?»
Je regardais l'androïde.
Cela me paraît éminemment raisonnable, dit-il, bien que cela s'inscrive dans la logique d'un voyage tout aussi éminemment déraisonnable.
Je considère cela comme un oui,
fit Aîné.
Et toi, Roll?
C'est d'accord. Mais où est-ce qu'on dort cette nuit? Ici, sur le sable, ou bien à l'intérieur du vaisseau, où nous serions plus en sécurité?
Je ferai de mon mieux pour que mon intérieur soit aussi sûr et hospitalier que possible, compte tenu des circonstances, déclara le vaisseau. Deux des couchettes du pont de fugue pourront vous servir de lit, et il y a des hamacs que l'on pourrait...
Je suis d'avis de camper sur la rive, murmura Aîné. Le vaisseau n'est pas plus à l'abri du Gritch que l'extérieur.
Je me tournai vers la forêt enténébrée.
Il y a peut-être là-bas d'autres créatures avec lesquelles nous n'aurions pas envie de nous trouver nez à nez dans le noir,
leur dis-je.
Le vaisseau me semble plus sûr.
Abétic me montra une petite caisse.
J'ai trouvé des alarmes périphériques, me dit-il. Nous pourrions les disposer autour du camp. Je me propose pour monter la garde toute la nuit. J'avoue que l'idée de dormir à la belle étoile après tout le temps que nous avons passé à bord n'est pas pour me déplaire. Je soupirai et haussai les épaules en signe de renoncement.
Nous établirons des tours de garde, déclarai-je. Assemblons ce fouillis pendant qu'on y voit encore un peu. Le fouillis consistait en divers équipements de camping que j'avais demandé à l'androïde de sortir du vaisseau. Une tente en polymère ultra fin, aussi légère qu'une toile d'araignée, mais d'une très grande solidité, totalement imperméable et assez compacte pour tenir dans une poche de pantalon. Le cube de chauffage à supraconduction, froid sur 5 faces et assez chaud sur la 6e pour faire cuire n'importe quel repas. Les alarmes périphériques mentionnées par Abétic, en fait une version pour chasseurs de bons vieux détecteurs militaires de mouvement, consistant en petits disques de 3 cm de diamètre, qui pouvait être enfoncé dans le sol pour couvrir une zone dans un rayon allant jusqu'à 2 km. Des sacs de couchage, des matelas de mousse infiniment compressibles, des lunettes de vision nocturne, nos communicateurs, des vivres et des ustensiles de cuisine. Nous commençâmes par disposer les alarmes en les répartissant en demi-cercle depuis l'orée de la forêt jusqu'au bord de l'eau.
Et si ce gros truc que nous avons vu sortait de l'eau pour nous dévorer ?
Demanda Aîné tandis que nous achevions de délimiter notre camp. Il faisait nuit pour de bon à présent, et les nuages cachaient les éventuelles étoiles. La brise agitait les frondaisons proches, qui émettaient un bruit encore plus sinistre que précédemment.
« Si ce truc ou n'importe quoi d'autre sort du fleuve pour nous croquer tout vif, » répliquai-je,
« tu regretteras de n'avoir pas voulu passer une nuit de plus dans le vaisseau. » Je plaçai le dernier détecteur au bord de l'eau. Puis nous dressâmes la tente au centre de la langue de sable, à proximité de l'avant du vaisseau endommagé. Le micro-tissu n'avait pas besoin d'armature ni de piquet pour se tendre. Il suffisait de le pincer fortement aux endroits que l'on voulait rigidifier, et il était capable de résister à un ouragan. Mais c'était une opération qui demandait quelque dextérité, et les deux autres me regardèrent faire avec intérêt. Je pliai d'abord la toile en forme de A, avec un espace assez haut au milieu pour pouvoir se tenir debout. Puis j'enfonçai les bords devenus soudain rigides dans le sable pour bien ancrer la tente. J'avais laissé une bonne longueur de micro-toile par terre pour former le tapis de sol, et en la tendant d'une certaine manière, nous eûmes notre rabat d'entrée. Abéti cocha la tête d'un air satisfait pour saluer le tour de main. Aîné étala les sacs de couchage à leur place pendant que je posais une casserole sur le cube de chauffage et m'occupais d'ouvrir une boîte de bœuf en daube. Au dernier moment, je me souvins que la fillette était végétarienne. Elle n'avait mangé pratiquement que des salades durant les 2 semaines que nous avions passées à bord du vaisseau.
« Ce n'est pas grave, »
dit-elle en passant la tête par l'ouverture de la tente.
« Je mangerai du pain que Abétique est en train de décongeler, avec un bout de fromage. »
L'androïde avait fait un petit tas de bois sec, et il était en train de disposer des galets en rond pour délimiter un foyer. « On n'a pas besoin de ça, » lui dis-je. J'indiquai le cube de chauffage et la casserole de daube qui commençait déjà à bouillonner.
« Je sais, » fit l'androïde, « mais je me suis dit qu'un feu de camp serait plaisant et que sa lumière serait la bienvenue. » Il n'avait pas tort.
La lumière des flammes fut effectivement la bienvenue. Nous nous assîmes sous l'auvent vestibule que j'avais pratiqué avec art et regardâmes le feu de camp cracher des étincelles vers le ciel tandis que la tempête s'installait. Elle était plutôt curieuse. Il n'y avait pas d'éclairs dans le ciel, mais plutôt des raies de lumière changeante. Les bandes pâles de couleur miroitante dansaient depuis la base des nuages en mouvement accéléré, jusqu'à une distance de quelques mètres de la cime des gymnospermes que le vent, de plus en plus violent, agitait dans tous les sens. Le phénomène n'était pas accompagné de tonnerre, mais d'une sorte de grondement à la limite de l'audition, qui avait le don de me mettre les nerfs à fleur de peau. Dans la jungle proprement dite, de pâles globes de phosphorescence rouge et jaune dansaient et sautaient d'une manière saccadée, qui n'avait rien à voir avec la grâce des somptueuses diaphanes des forêts d'Hyperion, mais évoquait plutôt quelque chose de nerveux, de presque malveillant. Derrière nous, le fleuve venait lécher la grève par petites vagues de plus en plus hardies. Assis auprès du feu, mon casque sur la tête, réglé sur la fréquence des détecteurs périphériques, le fusil à plasma sur les genoux, les lunettes de vision nocturne sur le front, prêtes à être abaissées en une fraction de seconde, je devais offrir un spectacle plutôt hilarant. Mais cela ne me faisait pas rire un seul instant. J'avais trop à l'esprit l'image des empreintes du Gritch dans le sable.
« Est-ce qu'il vous a paru menaçant ?» avais-je demandé à l'androïde quelques minutes plus tôt.
J'avais essayé de lui faire prendre le calibre 16 pour son tour de garde. C'était l'arme la plus facile à utiliser pour un novice, mais il n'avait rien voulu savoir. Tout ce qu'il acceptait, c'était que je pose le fusil à portée de sa main près du feu.
« Il n'a fait aucun geste que l'on puisse interpréter d'une manière ou d'une autre », m'avait répondu Abétique. « Il est juste resté un moment sur le sable, dressé de toute sa hauteur, hérissé de piquants, sa silhouette sombre contre le ciel, mais ses yeux rouges et lumineux. »
« Il vous regardait ?»«
Il regardait vers l'est, en aval. »
« Comme s'il guettait le retour d'Aîné et le mien », m'étais-je dit alors. Assis devant les flammes bondissantes du feu de camp, contemplant les phénomènes lumineux qui se multipliaient au-dessus des frondaisons secouées par le vent, suivant des yeux la sarabande des feux follets au-dessus de la jungle obscure, écoutant le tonnerre subliminal gronder comme les borborygmes de quelques monstrueuses bêtes affamées, je me demandais, une fois de plus, comment j'avais fait pour me fourrer dans une telle situation. Il pouvait y avoir, en ce moment même, de féroces vélociraptors ou des meutes affamées de Kalidergas qui sortaient des ténèbres pour ramper vers nous, qui étions stupidement groupés autour d'un feu. Ou bien le fleuve allait grossir et un mur d'eau allait nous engloutir d'une seconde à l'autre. Camper sur une langue de sable au bord d'un cours d'eau inconnu n'était pas ce qu'il y avait de plus génial. Nous aurions dû passer la nuit à bord du vaisseau après avoir soigneusement refermé le sas. Aîné contemplait les flammes allongées à plat ventre.
« Tu connais des histoires ?»
me demanda-t-elle.
« Des histoires ?»
répétai-je stupidement tandis que l'androïde tournait la tête pour nous regarder, les mains nouées autour de ses genoux.
« Oui, »
murmura la fillette.
« Des histoires de fantômes, par exemple. »
J'émis un vague grognement. Elle se prit le menton dans les mains. Les flammes donnaient des couleurs à ses joues habituellement pâles.
« Ce serait amusant, »
dit-elle.
« J'adore les histoires de fantômes. »
Plusieurs répliques me vinrent à l'esprit, mais je les gardais pour moi.
« Tu ferais mieux d'aller dormir, » lui dis-je finalement.
« Si le vaisseau ne s'est pas trompé sur la durée du cycle de cette planète, la nuit ne va pas être bien longue.
Le ciel fasse que ce soit vrai, criait une voix en moi.
« À ta place, j'irai me coucher tout de suite. »«
D'accord, »
fit Aîné. Jetant un dernier regard à la jungle secouée par le vent, aux feux follets et aux phénomènes lumineux dans le ciel, elle se glissa dans son sac de couchage et ne tarda pas à s'endormir. Abétique et moi, nous demeurâmes quelque temps silencieux. De temps à autre, je disais quelques mots dans mon persoc pour demander au vaisseau de nous informer immédiatement si le niveau du fleuve venait à monter ou s'il détectait une masse en mouvement.
« Je prendrai volontiers la première garde à Chandimion, » me dit l'androïde à un moment.
« Non, non, vous pouvez dormir, » répliquai-je. J'oubliais que l'homme bleu n'avait besoin que de très peu de sommeil.
« Nous veillerons ensemble dans ce cas, » me dit-il. « Mais ne vous gênez pas pour sommeiller s'il vous en prend l'envie à Chandimion. »
Je dus m'assoupir quelque temps, effectivement, un peu avant l'aube tropicale, 6 heures plus tard. Le vent avait soufflé toute la nuit. Les nuages étaient toujours là. Le vaisseau n'avait pas pu faire le point sur les étoiles. Aucun vélociraptor, aucun Kalidergas n'était venu nous dévorer. La tempête électrique ne nous avait pas fait de mal et les boules de feu des marais n'étaient pas sorties de la forêt pour nous brûler. Ce dont je me souviens le mieux à propos de cette nuit, en dehors de ma parano galopante et de la terrible lassitude qui lui succéda, c'est la vue d'Aîné dans son sac de couchage rouge, la tête auréolée de sa chevelure brun et blond, le poing contre la joue, comme un très jeune enfant qui s'apprête à sucer son pouce. C'est cette nuit-là que je compris vraiment l'importance et la terrible difficulté de la tâche qui m'attendait. Protéger cette gamine des pics et des crocs d'un univers étranger et indifférent. Je crois que c'est sur ce monde inconnu, par cette nuit de tempête, que je compris pour la première fois ce que c'est que d'être père. Nous nous mîmes en route à la première lueur de l'aube. Je ressentais plus que jamais ce mélange de fatigue, de paupières lourdes, de joues mal rasées, de mal de dos et de pure exaltation que j'avais toujours connue au réveil de ma première nuit de camping. Aîné descendit se laver au bord de l'eau et je dois admettre qu'elle me parut, quand elle revint, plus fraîche et plus en forme qu'elle n'aurait dû l'être dans ces circonstances. Abétique avait fait du café à l'aide du cube. Nous en bûmes une tasse tout en contemplant la brume du matin qui flottait au-dessus du courant rapide. Aîné but une gorgée d'eau à la bouteille qu'elle avait apportée du vaisseau et nous croquâmes les céréales de nos sachets rations. Lorsque le soleil se montra au-dessus de la voûte de la jungle, chassant les derniers restes de brume qui flottaient au ras de l'eau, nous avions déjà commencé à transporter le matériel avec le tapis Hawking. Comme Aîné et moi nous avions eu le beau rôle la veille, je laissais à l'androïde le soin de faire la navette avec le tapis pendant que j'allais chercher de nouvelles affaires dans le vaisseau, pour faire en sorte que nous ne manquions de rien. L'habillement posait un problème. J'avais emporté le maximum de linge, mais Aîné n'avait que les vêtements qu'elle portait en sortant du Sphinx, plus quelques robes que nous lui avions taillées dans les chemises du consul.
On aurait pu croire que le vieux poète, qui avait disposé de plus de 250 ans pour préparer l'évasion de la fillette, aurait pensé à ce genre de détails, mais il n'en avait rien été. Aînée se satisfaisait de ce qu'elle avait sur elle, mais je me disais que ce ne serait pas suffisant si nous rencontrions du froid ou de la pluie en chemin. Les coffres à EV me furent, là encore, d'un grand secours. Il y avait plusieurs doublures intérieures destinées aux scaphandres, et la plus petite me semblait à peu près de sa taille. Je savais que le tissu microporeux la maintiendrait au chaud et au sec, quelles que soient les conditions extérieures. Je pris également une doublure pour l'androïde et pour moi. Il pouvait sembler absurde de s'encombrer de vêtements chauds dans ce climat tropical, mais on ne savait jamais. Je trouvai également dans une armoire une vieille veste de chasse du consul. Elle était longue et munie de plus d'une douzaine de poches à fermeture à glissière, à lacets ou à boutons pression. Certaines même étaient secrètes. Aînée poussa un cri lorsque je la sortis du fouillis de l'armoire. Elle la mit et ne la quitta pratiquement plus dès cet instant. Nous trouvâmes encore deux poches à échantillons à EV, avec des bretelles, qui faisaient d'excellents sacs à dos. Aimée en mit une à l'épaule et la bourra de tout un bric-à-brac qu'elle trouva sur place. J'étais certain qu'il devait y avoir quelque part un radeau gonflable, mais impossible de mettre la main dessus. « Un chandimion, » me dit le vaisseau lorsqu'il m'entendit faire part à l'enfant du but de mes recherches acharnées. « J'ai un vague souvenir. » Aînée et moi nous interrompîmes nos activités pour l'écouter. Il y avait quelque chose d'étrange, de presque douloureusement peiné dans la voix du vaisseau lorsqu'il poursuivit. J'ai le vague souvenir du consul en train de s'éloigner sur un radeau gonflable et de me faire des signes de main pour me dire au revoir. Où ? Demandai-je. Sur quel monde ? Je l'ignore, me dit le vaisseau de la même voix peinée. Ce n'était peut-être même pas un monde. Je me souviens que les étoiles brillaient sous le fleuve.
« Sous le fleuve ? »
répétai-je. Je commençais à m'inquiéter pour son intégrité mentale à la suite de l'accident. « Le souvenir est fragmenté, » reprit le vaisseau d'une voix plus claire. « Mais je me souviens très bien du consul en train de s'éloigner sur le radeau, qui était suffisamment grand pour transporter confortablement 8 ou 10 personnes. » « Parfait !» déclarai-je en faisant claquer la porte d'un casier de rangement. Aînée et moi avions transporté le dernier chargement. Nous avions improvisé une échelle pliante en métal pour entrer et sortir du sas plus facilement. Abétique avait effectué son dernier voyage au pied de la cataracte, et il ne restait plus à emporter que mon sac à dos rempli d'affaires personnelles, celui d'Aînée, les communicateurs de rechange, les lunettes de vision nocturne, quelques rations supplémentaires et le fusil à plasma, sans oublier la machette que l'androïde avait fini par trouver hier. Malgré sa gaine de cuir, le coutelas n'était pas commode à porter, mais les quelques minutes que j'avais passées la veille dans la jungle m'avaient amplement convaincu de son éventuelle nécessité. J'avais également déniché une hache et un outil encore plus compact, une de ces pelles pliantes que, depuis des millénaires, les fantassins appellent « outil de sape ». Toute notre quincaillerie commençait à prendre pas mal de place. J'aurais volontiers échangé la hache contre un laser de coupe pour abattre les arbres nécessaires à la construction du radeau, même une vieille tronçonneuse aurait été préférable, mais le laser d'éclairage dont je disposais ne pouvait être utilisé ainsi, et l'armurerie du vaisseau était curieusement dépourvue de tout instrument tranchant. Un instant, je me laissais aller à imaginer que nous pourrions faire le travail avec le vieux fusil d'assaut de la force, en fauchant les troncs à la base pour les fendre ensuite, si nécessaire, avec des rayons pulsants, mais je repoussai rapidement cette idée. Ce serait beaucoup trop bruyant, bordélique et imprécis. Il allait falloir se servir de la hache et transpirer un peu. Je pris une caisse à outils avec un marteau, des clous, des vis, des tournevis et des goupilles, tout ce qu'il fallait pour la construction d'un radeau. J'emportai également quelques rouleaux de plastalum étanche qui serviraient à assembler un plancher rudimentaire mais solide, ainsi que 3 rouleaux de cordelettes de nylon représentant plusieurs centaines de mètres. Dans un sac rouge étanche, J'avais trouvé des fusées de détresse et quelques pains de plastique tout simples, du genre que l'on utilise depuis des siècles pour faire sauter les souches et les roches dans les champs cultivés, accompagnés d'une douzaine de détonateurs. Je les emportais aussi, bien qu'il y eût peu de chances que nous nous en servions pour abattre les arbres. Je n'oubliais pas de mettre de côté, pour le voyage suivant, deux trousses médicales et un purificateur d'eau. J'avais déjà sorti la ceinture de vol EM, mais elle était encombrante avec son harnais et son bloc d'alimentation. Je la posais néanmoins à côté de mon paquetage, en me disant que nous en aurions peut-être besoin. Quant au calibre 16, que l'androïde n'avait pas voulu emporter sur le tapis Hawking, je l'avais posé contre le mur, à portée de la main, avec trois boîtes de munitions. J'avais aussi insisté pour prendre le pistolet à fléchette, bien que ni aîné ni abétique n'aient accepté de le garder sur eux. À ma ceinture, il y avait l'étui dans lequel se trouvait mon 45 chargé, une pochette où j'avais glissé la vieille boussole magnétique que nous avions trouvée dans la soute, des jumelles de jour, une gourde et deux chargeurs pour le fusil à plasma. « Vous pouvez vous amener maintenant, les vélociraptors, » murmurai-je en poursuivant mon inventaire.
« Quoi ?»
me demanda Aîné en relevant la tête.
« Rien du tout. »
Elle avait soigneusement rangé ses affaires dans son nouveau sac lorsque Abétique se posa sur la langue de sable. Elle avait même eu le temps de mettre les affaires personnelles de l'androïde dans le second sac à dos. J'ai toujours aimé le moment de lever le camp, encore plus peut-être que d'en établir un. Ce qui me plaît surtout dans ce moment magique, je pense, c'est le fait de ranger méticuleusement les bagages.
Nous n'avons rien oublié ? Demandai-je aux deux autres lorsque nous eûmes passé en revue tout ce qu'il restait à transporter.
Moi !
Fit alors le vaisseau dans mon persoc. J'aurais juré qu'il avait une voix légèrement plaintive. Aîné s'avança vers la coque de métal pour la toucher gentiment.
« Comment ça va ? »
demanda-t-elle.
« J'ai déjà commencé les réparations, H. Aîné. Merci de vous préoccuper de mon état. »
« Vous prévoyez toujours 6 mois pour les achever ? » demandai-je. Les derniers nuages étaient en train de se dissiper au-dessus de nos têtes. Le ciel avait repris sa couleur bleu pâle habituelle, contre laquelle s'agitaient les frondaisons verts et blancs.
6 mois standard, à peu de choses près, en ne comptant que ma coque et mes aménagements internes, naturellement. Je ne dispose pas des micromanipulateurs requis pour réparer vos scooters endommagés, par exemple.
Ne vous inquiétez pas pour ça,
lui dit Aîné.
Nous les laissons ici. Nous les réparons à notre retour.
Quand comptez-vous revenir ?
La voix qui sortait du persoc était nettement plus timide que d'habitude. L'enfant se tourna vers Abéti, puis vers moi. Aucun de nous n'ouvrit la bouche. Finalement, ce fut Aîné qui reprit la parole pour répondre d'une voix ferme.
Nous allons encore avoir besoin de vous, vaisseau. Pouvez-vous vous camoufler pendant des mois, ou des années peut-être, pendant que vous vous auto-réparez ?
Oui, répondit le vaisseau. Le lit du fleuve, est-ce que cela vous convient ?
Je regardais l'énorme coque au bord de l'eau. Le fleuve était très large à cet endroit et probablement très profond. Mais l'idée que sa coque éventrée pourrait trouver refuge au fond de l'eau me paraissait bizarre.
Est-ce qu'il n'y a pas de risque de fuite ?
Demandai-je.
Achandimion, répliqua le vaisseau sur un ton que je jugeais, cette fois-ci, légèrement condescendant. Je suis un engin interstellaire capable de pénétrer des nébuleuses et de survivre confortablement dans l'enveloppe externe d'une géante rouge. Il serait étonnant que je sois victime d'une fuite, comme vous dites, simplement parce que je me trouverais immergé pendant une ou plusieurs années dans un milieu composé d'H2O.
Désolé, murmurai-je.
Puis, décidé à ne pas lui laisser le dernier mot, j'ajoutai.
N'oubliez quand même pas de refermer votre sas.
Il ne releva pas mon impertinence.
Quand nous reviendrons vous chercher,
fit Aîné,
est-ce que nous pourrons communiquer avec vous ?
Utilisez la fréquence du persoc ou la bande radio générale à 90,1. J'installerai une antenne 9 queues au ras de l'eau pour vous capter.
Une antenne 9 queues, répéta doucement Abétique.
L'expression est poétique.
Désolé, mais je ne me souviens pas de l'origine du terme. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était avant.
Ne vous inquiétez pas,
lui dit Aîné en donnant plusieurs petites tapes à la coque.
Vous nous avez très bien servi. Récupérez bien. Nous espérons vous trouver en pleine forme à notre retour.
Oui, Aîné. Nous resterons en contact. Je suivrai votre progression jusqu'à ce que vous franchissiez le premier portail.
Abétique et Aîné prirent place sur le tapis Hawking avec leur sac à dos et le reste du matériel. Je me harnachais dans la ceinture de vol. Il me fallait porter mon paquetage sur la poitrine, avec les sangles sur les épaules et le fusil à la main, mais ça marchait. Je n'avais jamais fait fonctionner ces engins EM. Ils étaient inopérants sur Hyperion. Mais j'avais étudié leur mode d'emploi. Les commandes étaient simples et intuitives. L'indicateur de charge était au maximum, je ne risquais donc pas de tomber à l'eau pendant ce premier voyage. Le tapis m'attendait déjà à une dizaine de mètres au-dessus du fleuve lorsque j'appuyais sur le bâton de commande pour prendre mon essor, passer au ras d'une feuille de gymnosperme, trouver mon équilibre et m'approcher enfin du tapis. Rester suspendu au harnais n'était pas aussi confortable que demeurer assis sur un tapis volant, mais les sensations étaient encore plus fortes. Le bâton de commande au creux de ma main, je leur fis signe que tout allait très bien, et nous prîmes la direction de l'est au-dessus du fleuve, vers le soleil levant. Il n'y avait pas beaucoup d'autres langues de sable entre le vaisseau et la cataracte, mais nous avions repéré un bon emplacement, juste après les rapides, à l'endroit où le courant tumultueux faisait place à un petit lac. C'est là que l'androïde et moi nous déballâmes notre équipement de camping et les premières caisses de matériel. Le bruit de la cataracte était assourdissant tandis que nous empilions les derniers cartons. Je pris la hache et me tournai vers les gymnospermes les plus proches.
« J'ai réfléchi », me dit Abétique d'une voix si faible que je ne l'entendais presque pas.
Je m'immobilisais, la hache à l'épaule. Le soleil commençait à taper dur. Ma chemise me collait déjà à la peau.
« Le Tétis était censé être un cours d'eau d'agrément », reprit l'androïde. « Je me demande comment les organisateurs de croisière se débrouillaient avec ça. »
Il montra d'un doigt bleu le courant bouillonnant un peu plus loin.
« Je me suis fait la même réflexion », nous dit Aîné en hochant la tête. « Je sais qu'ils avaient des barges de lévitation à l'époque, mais ceux qui descendaient le Tétis pour leur plaisir n'acceptaient certainement pas toujours d'y monter. Imaginez que vous vouliez faire un voyage romantique et qu'on vous demande de franchir ça sur une barge. »
Les yeux fixés sur les embruns irisés aux abords de la chute d'eau, j'étais en train de me demander si j'étais aussi intelligent que je me plaisais parfois à le penser. Le fait est que cette évidence ne m'avait pas effleuré un seul instant. « Il y a près de 3 siècles standards que personne ne navigue plus sur ce fleuve, » déclarai-je. « La cataracte n'existait peut-être pas avant ?»«
C'est possible, » fit Abétique, « mais j'en doute. Ces chutes me semblent issues du même matériel tectonique que celui qui traverse la jungle sur des kilomètres au nord et au sud. Vous voyez la dénivellation qu'il y a ici ? Il a fallu des millénaires d'érosion pour creuser ça. » Remarquez la taille des blocs dans les rapides. À mon avis, cette cataracte est aussi ancienne que le fleuve lui-même.
Mais elle n'est pas signalée dans votre guide du Tétis ? Demandai-je.
Non, fit l'androïde en tendant le livre à Aîné qui le feuilleta rapidement.
Nous ne sommes peut-être pas sur le Tétis, suggérai-je. Les deux autres me regardèrent curieusement. Le vaisseau n'a pas pu faire le point sur les étoiles, poursuivis-je. Mais supposez qu'il s'agisse d'un monde qui ne figurait pas à l'origine dans le circuit du Tétis.
Aîné hocha la tête. J'y ai pensé, dit-elle. Les portails sont les mêmes que ceux qui demeurent aujourd'hui sur les vestiges du fleuve. Mais qui peut affirmer que le technocentre n'en avait pas d'autres, pour relier des cours d'eau sur des mondes différents, par exemple?
Je posai la tête de ma hache par terre et m'appuyai sur le manche.
Si c'est le cas, nous avons un problème, déclarai-je. Tu ne trouveras pas ton architecte, et nous ne réussirons jamais à retourner au vaisseau puis chez nous. »
Elle sourit.
« Il est trop tôt pour s'inquiéter de ça. C'est vrai que près de 3 siècles se sont écoulés.
le fleuve s'est peut-être creusé un autre chemin depuis l'époque du Tétis. Il est également possible que nous ayons raté un canal et des écluses parce qu'ils ont été envahis par la jungle.
Ce n'est pas notre préoccupation première. Ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est descendre le courant pour essayer de trouver un autre portail.
Je mis un doigt en avant. Il m'est venu une autre pensée, leur dis-je en me sentant un peu moins idiot que tout à l'heure.
Supposons que nous nous donnions tout ce mal pour construire un radeau ici et que nous tombions sur une nouvelle cascade en aval avant le portail. Pourquoi pas 10 d'ailleurs? Nous n'avons pas vu de portail hier soir. Nous ignorons à quelle distance il peut se trouver.
J'y ai pensé,
me dit Aîné.
Je pianotais impatiemment sur le manche de ma hache. Si cette gamine disait ça encore une fois, j'allais envisager sérieusement de lui en donner un bon coup sur les fesses.
Achéné m'a demandé d'effectuer une petite reconnaissance, fit l'androïde. J'ai profité de mon dernier voyage ici pour le faire.
Je m'aperçus que j'étais en train de froncer les sourcils.
Reconnaissance? Vous n'allez pas me dire que vous avez eu le temps de parcourir plus de 100 km et retour.
Non, reconnut l'androïde, mais je suis monté très haut avec le tapis et j'ai utilisé l'autre paire de jumelles pour repérer notre chemin. Il semble que le cours du fleuve soit rectiligne sur près de 200 km. Il n'a pas été très facile de m'en assurer, mais je crois avoir aperçu une arche à environ 130 km d'ici en aval. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres cascades ou obstacles naturels sur notre route.
Les plis de mon front durent s'accentuer.
Vous avez pu voir tout ça?
Demandai-je.
À quelle altitude étiez-vous?
Le tapis n'est pas équipé d'un altimètre, mais à en juger par la courbure de la planète et l'assombrissement du ciel, je pense que j'étais à une centaine de kilomètres de la surface.
Vous aviez un scaphandre spatial?
À cette altitude, le sang d'un homme se mettait à bouillonner dans ses veines et ses poumons éclataient de décompression.
Un respirateur?
Ajoutai-je en regardant autour de moi. Je ne voyais rien de semblable parmi notre modeste tas de matériel.
Non, me répondit l'androïde en se tournant pour soulever une autre caisse. J'ai juste retenu ma respiration.
Secouant la tête, je m'éloignai pour couper quelques arbres, en me disant que l'exercice et la solitude me feraient du bien.
La nuit tomba avant que nous n'ayons terminé le radeau. J'aurais été obligé de travailler toute la nuit si Abétic ne m'avait pas relayé dans mon labeur de bûcheron. Le produit fini n'était pas d'une très grande beauté, mais il flottait. Notre petit radeau faisait 6 mètres de long sur 4 de large environ, et il était guidé par une longue perche taillée en forme de godille qui reposait sur une fourche solidement fixée à l'arrière, sur une plateforme légèrement surélevée où Aîné avait modelé la tente en coupe-vent, avec une ouverture à l'avant et une autre à l'arrière. Sur les côtés du radeau, il y avait aussi des tollets rudimentaires avec de longs avirons prévus pour demeurer contre les flancs de l'esquif et n'être utilisés qu'en cas d'urgence, pour ramer dans des eaux stagnantes ou pour franchir des rapides. J'avais craint, au début, que les troncs des gymnospermes ne s'imbibent d'eau et n'aient pas assez de flottaison pour être utilisés à cet usage. Mais il avait suffi de 2 couches croisées, solidement attachées avec de la cordelette et chevillées aux endroits stratégiques, pour maintenir le pont à 15 cm au-dessus de l'eau.
Aîné s'était montré fasciné par la micro-tente, et je dus admettre qu'elle avait une manière de sculpter la toile qui dépassait en adresse et en efficacité tout ce que j'avais réalisé avec mes années d'expérience. Notre coupe-vent pouvait abriter de la pluie et du soleil à la fois celui qui godillait et ceux qui se trouvaient au centre sans leur couper la vue d'aucune manière. Il ménageait aussi sur les côtés de beaux espaces pour garder nos caisses bien au sec. Aîné avait déjà disposé nos sacs et matelas de couchage en différents coins de la tente, en préservant un espace central où nous pouvions nous asseoir pour admirer la vue devant nous. Cet espace s'ornait d'un superbe galet plat d'1 mètre de diamètre, destiné à servir de foyer, avec le cube chauffant et les ustensiles de cuisine posés dessus. L'une des lampes, accrochée à un fil, éclairait le tout, et je dois reconnaître que l'effet produit était des plus intimes. Aîné n'avait cependant pas passé tout l'après-midi à décorer la tente. Alors que je m'attendais à ce qu'elle nous regarde transpirer sous le soleil, j'avais ôté ma chemise au bout d'1 heure de rude besogne. Elle s'était mise, elle aussi, à l'ouvrage, en traînant les troncs abattus jusqu'au chantier pour les dégrossir, les clouer, mettre en place les chevilles et les articulations à pivot, faisant tout ce qu'elle pouvait, en bref, pour nous faciliter la tâche. Elle me fit remarquer que la manière dont j'avais appris à monter une godille était inefficace et que le trépied qui la soutenait devait être plus bas et plus écarté pour que la godille soit plus facile à manier et donne de meilleurs résultats. Par deux fois, elle me montra différentes manières de nouer les traverses dans la partie inférieure du radeau pour qu'elle soit plus résistante. Lorsque nous avions besoin de retailler un tronc, c'était elle qui s'en chargeait avec la machette. Abétique et moi, nous n'avions plus alors qu'à reculer pour ne pas recevoir de copeaux dans l'œil. Malgré nos efforts conjugués, cependant, la nuit était presque déjà là lorsque le radeau fut terminé et le matériel chargé. « On pourrait camper ici et partir à l'aube ?» déclarai-je. Au moment même où je disais ces mots, je savais que ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Les deux autres pensaient la même chose que moi. Nous montâmes à bord et j'écartai le radeau de la rive à l'aide de la longue perche qui devait être notre principal moyen de propulsion en l'absence de courant. Abétique était au gouvernail et Aîné se tenait à l'avant pour guetter les bancs de sable ou les roches traîtresses. Durant la première heure, tout sembla presque magique. Après la chaleur lourde de la jungle et nos pénibles efforts de la journée, nous étions comme au paradis sur ce radeau qui glissait lentement au fil de l'eau. Tout ce que nous avions à faire, c'était corriger occasionnellement sa course en prenant appui sur la vase du fond et regarder défiler les murs de jungle de plus en plus sombres. Le soleil se coucha bientôt juste derrière nous. Durant quelques instants, le fleuve fut aussi rouge que de la lave en fusion. Les feuilles des gymnospermes de chaque côté reflétaient la lumière du couchant. Puis le gris devint noir. Nous n'eûmes pas le temps d'apercevoir beaucoup les étoiles, car déjà les nuages arrivaient de l'est comme ils l'avaient fait la nuit précédente.
« Je me demande si le vaisseau a pu faire le point, »
murmura Aîné. « Appelons-le pour le lui demander, » proposai-je. Aucun relevé n'avait été effectué. J'ai pu cependant établir que nous n'étions ni sur Hyperion ni sur le vecteur Renaissance, nous assura la petite voix issue de mon persoc.
« Quel soulagement !» dis-je. « Pas d'autres nouvelles ?»«
Je suis maintenant au fond de l'eau. C'est très confortable. Je m'apprête à... » Soudain, des éclairs colorés crépitèrent aux horizons nord et ouest, et le vent balaya le fleuve avec une telle violence que nous nous précipitâmes tous les trois pour empêcher nos affaires de s'envoler. Le radeau se mit à dériver en direction de la rive sud, en même temps que les moutons du fleuve, et le persoc ne cracha plus que des parasites. Je l'éteignis et me concentrai sur la manœuvre avec la perche pendant que Abétique tenait la godille. Durant plusieurs minutes, je fus certain que le radeau allait se briser sur les vagues dans le vent rugissant. L'avant se soulevait et retombait avec fracas, et notre seul éclairage venait des éclairs pourpres et écarlates qui striaient le ciel. Le tonnerre, ce soir, était audible, sous la forme de sons creux, par vagues successives, comme si quelqu'un faisait rouler vers nous des fûts d'acier géants dans un escalier. Les phénomènes atmosphériques ne dansaient plus dans le ciel comme la veille, mais le déchiraient de part en part. Nous nous figeâmes tous les trois durant plusieurs secondes, lorsque l'un de ces éclairs pourpres frappa une gymnosperme sur la rive nord, causant son explosion immédiate dans une gerbe de flammes et d'étincelles de toutes les couleurs. En tant qu'ex-batelier, je maudis ma stupidité pour nous avoir laissé venir ici, au milieu d'un si large fleuve, il faisait de nouveau près d'un kilomètre de large à cet endroit, sans paratonnerre ni tapis isolant en caoutchouc. Nous nous faisions tout petits, en grimaçant, chaque fois que les éclairs colorés frappaient la rive ou éclairaient l'horizon à l'est, devant nous. Soudain, la pluie se mit à tomber et les éclairs s'apaisèrent. Nous courûmes nous réfugier sous la tente. Aîné et Abétique s'accroupirent dans la partie antérieure, toujours à l'affût de bancs de sable ou de troncs flottants, et je demeurai debout à l'arrière, où la personne qui tenait la godille pouvait manœuvrer à l'abri de la pluie. Il pleuvait souvent, parfois de manière intense, sur le fleuve Canse, du temps où j'étais batelier. Je me souviens d'être resté transi durant des heures sur le gaillard d'avant d'une vieille barge,
en me demandant si elle n'allait pas sombrer sous le poids de l'eau tombée du ciel. Mais je n'avais jamais connu de pluie aussi violente que celle-ci. Un instant, j'avais même cru que nous étions tombés sur une nouvelle cataracte, encore plus puissante que la dernière, et que nous avions été entraînés à notre insu sous son assourdissant rideau. Mais nous étions toujours entraînés par le courant, et l'eau continuait de tomber sur nous avec une intensité jamais égalée dans mon expérience. Il eût été plus intelligent de nous réfugier sur la rive en attendant la fin du déluge, mais nous n'avions plus aucune visibilité en dehors des rares éclairs rouges qui trouaient le mur d'eau. Je n'avais pas la moindre idée de la distance à laquelle nous étions de la rive la plus proche, et j'ignorais si nous avions des chances d'accoster sans heurts et sans risque de perdre le radeau. Je bloquais donc la godille dans sa position la plus haute, de sorte qu'elle ne ferait plus que maintenir le radeau sur une course à peu près rectiligne, abandonnais mon poste et allais me blottir sous la tente avec l'enfant et l'androïde, tandis que les cieux s'ouvraient sur nous, déversant des rivières, des lacs et des océans. Il faut dire, au crédit de la fillette, que ce soit dû à la chance ou à son habileté, que la toile ne menaça à aucun moment de se déchirer ou de se détacher des supports qui l'ancraient fermement au pont du radeau. J'ai dit que j'étais allé me blottir avec eux, mais la vérité m'oblige à préciser que nous étions tous les trois occupés à maintenir les caisses qui menaçaient de briser leurs attaches, tandis que le radeau était ballotté, secoué et mis à mal de tous les côtés à la fois. Nous ne savions plus dans quelle direction nous allions. Nous ignorions si nous étions toujours au milieu du courant ou emportés par des rapides, en train de rebondir sur de gros blocs ou même de foncer sur notre lancée en direction d'un mur de roche alors que le fleuve avait pris un tournant que nous avions raté. Aucun de nous ne se souciait plus de savoir où nous en étions à ce stade. Notre seul objectif était de maintenir notre matériel sur le radeau, de nous y maintenir nous-mêmes et d'aider de notre mieux les deux autres à s'y maintenir. À un moment, un bras autour de notre petit tas de sacs à dos, agrippant de l'autre main le collet de la fillette, qui se penchait dangereusement pour rattraper un ustensile de cuisine en train de quitter la tente à toute vitesse, j'entrevis la partie avant du radeau et constatai que celui-ci, à l'exception de la plateforme surélevée où était plantée la tente, était entièrement submergé. Le vent soulevait des moutons qui prenaient des reflets rouges ou jaunes en fonction des éclairs qui faisaient rage à ce moment-là dans le ciel. Je me souvins tout à coup d'une chose que j'avais oublié de chercher dans les coffres du vaisseau. Des gilets de sauvetage. Je tirai Aîné en arrière à l'abri de la tente pour lui crier dans la tempête
« Tu sais nager quand tu n'es pas sous G0 ?»«
Quoi ?»
Je vis ses lèvres bouger pour former le mot, mais je n'entendis rien.
« Est-ce que tu sais nager ?»
Abétique leva les yeux de l'endroit où il se trouvait parmi les caisses qui penchaient dangereusement. L'eau ruisselait sur son crâne chauve et sur la longue arête de son nez. Ses yeux bleus prenaient une coloration violette chaque fois que le ciel s'illuminait d'éclairs. Aîné secoua la tête. Je ne savais pas si c'était pour répondre à ma question par la négative ou pour me faire savoir qu'elle ne m'entendait pas. Je l'attirai contre moi. Sa veste à poches multiples était trempée et battait au vent comme un drap mouillé dans la tempête.
« Est-ce que tu sais nager ?»
hurlai-je littéralement à plein poumon. Les formes coupaient la respiration. Je mimais des deux mains frénétiquement des mouvements de natation. Le radeau fit une embardée qui nous sépara, puis nous rapprocha. Je vis briller une lueur de compréhension dans ses yeux. La pluie et les embruns agglutinaient ses longues mèches. Elle me sourit. Même ses dents semblaient ruisseler de pluie. Elle se pencha pour me crier à l'oreille.
« Merci ! J'aimerais aller nager avec toi, mais pas maintenant !»
Nous dûmes à ce moment-là passer sur un tourbillon, à moins que le vent, en s'engouffrant sous la tente, ne s'en soit servi comme d'une voile pour faire pivoter le radeau sur son axe. Toujours est-il qu'il se mit à tournoyer, parut hésiter, puis continua son mouvement. Nous renonçâmes tous les trois à essayer de maintenir quoi que ce soit en dehors de notre propre vie et de celle des autres. Nous demeurâmes blottis au centre de la plateforme surélevée. Je me rendis alors compte que la fillette était en train de hurler. C'était une sorte de « youhou » d'allégresse. J'ouvris la bouche pour lui crier de se taire, mais ce fut la même clameur qui sortit.
Cela faisait du bien de hurler dans la tempête et le déluge. On n'entendait pas grand-chose, mais c'était bon d'entendre l'écho de son propre cri résonner dans son crâne et dans ses os en même temps que les roulements du tonnerre. J'aperçus sur ma droite, à la faveur d'un éclair rouge qui illumina le fleuve entier, un énorme rocher rond qui émergeait d'au moins 5 mètres. Le radeau le contourna, emporté comme un toton par le courant. Je fus encore plus surpris de voir Abetik à genoux, la tête rejetée en arrière, en train de crier « Youhou !» au plus fort de ses poumons d'androïde. La tempête dura toute la nuit. À l'approche de l'aube, la pluie se calma au point de n'être plus qu'une précipitation régulière. Les phénomènes lumineux et le tonnerre avaient dû cesser entre-temps, mais j'en ai perdu le souvenir. J'étais, comme mes deux compagnons, en train de ronfler, profondément endormi. Nous nous réveillâmes alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. Il n'y avait plus aucun nuage en vue, le fleuve était large et paisible, et la jungle, de chaque côté, formait une tapisserie sans fin qui se déroulait sur notre passage sous un ciel bleu. Longtemps, nous fûmes incapables de quoi que ce soit, excepté demeurer assis au soleil, les coudes sur les genoux, les vêtements encore trempés. Aucun de nous ne disait mot. Je pense que nous avions tous dans les yeux la vision tumultueuse de la nuit, avec ses explosions de couleurs. Au bout de quelque temps, Aîné se leva sur des jambes chancelantes. Le pont du radeau était mouillé, mais au-dessus de la surface de l'eau. Un tronc s'était détaché à tribord et la cordelette s'était effilochée en plusieurs endroits, mais dans l'ensemble, notre radeau tenait bon. Nous vérifiâmes le matériel. La lampe que nous avions fixée à l'avant avait été emportée, de même qu'une caisse de vivres, mais tout le reste semblait intact.
« Je vais préparer le petit-déjeuner »,
nous dit Aînée. Elle régla le cube au maximum de chaleur, fit bouillir de l'eau en moins d'une minute, remplit sa théière et notre cafetière, puis étala dans une petite poêle des lanières de jambon avec de fines tranches de pommes de terre qu'elle coupait au fur et à mesure. En voyant frire le lard, je lui dis « Et je croyais que tu étais végétarienne ».
« Je le suis »,
répliqua-t-elle.
« Je vais prendre des pétales de blé et un verre de cet horrible lait reconstitué du vaisseau. Mais je veux bien faire la cuisine pour une fois, et veiller à ce que vous soyez bien nourris. »
Nous mangeâmes à satiété, assis au soleil, à l'avant de la plateforme pour faire sécher nos vêtements. Je sortis le tricorne écrasé qui se trouvait dans la poche de ma veste, le tordis pour bien l'essorer et le posai sur ma tête pour me faire de l'ombre. Aîné pouffa de rire en me voyant. Je regardais Abetik du coin de l'œil, mais l'androïde avait repris son impassibilité d'observateur, comme si sa période « youhou » n'avait jamais existé. Il redressa un espars à l'avant du radeau. Je l'avais muni d'un socle pivotant afin de pouvoir y accrocher une lanterne la nuit. Il ôta sa chemise blanche en lambeaux et l'y étendit pour la faire sécher. Le soleil faisait luire sa peau d'un bleu uni.
« Un drapeau !»
s'écria Aîné.
« C'est exactement ce qu'il manquait à notre expédition !»
« Pas un drapeau blanc tout de même !» lui dis-je en riant. « C'est un symbole de... » Je m'interrompis au milieu de ma phrase. Le courant nous avait poussé lentement au milieu d'un coude du fleuve, d'où nous apercevions l'énorme portail ancien qui enjambait l'eau à une hauteur de plusieurs centaines de mètres. Il était tellement envahi par la végétation à sa base que des arbres entiers poussaient sur ses côtés et que des lianes pendaient de ses échancrures et de ses incrustations. Chacun de nous prit aussitôt son poste. J'allais à la barre, Abetik se prépara à utiliser la perche, et Aîné s'accroupit à l'avant. Durant une longue minute, je fus certain que ce portail était mort, qu'il n'allait jamais fonctionner. Je voyais la jungle et le ciel bleu à travers lui. Et le fleuve coulait normalement dessous. Tout était parfaitement en ordre, jusqu'au moment où nous passâmes dans l'ombre de l'arche géante. J'aurais pu voir un poisson bondir à la surface de l'eau 10 mètres devant nous. Le vent ébouriffait la chevelure d'Aîné et faisait onduler la surface du fleuve. Au-dessus de nos têtes, des tonnes de métal ancien étaient en suspens dans l'air, comme une esquisse de pont maladroitement dessinée par un enfant. «
Il ne s'est rien passé ?»
commençai-je.
l'air s'emplit soudain d'électricité d'une manière encore plus terrifiante que la tempête de la nuit dernière. C'était comme si un rideau s'était subitement abattu sur nous du haut de l'arche. Je tombai à genoux sous le poids, éprouvant immédiatement après une curieuse sensation d'apesanteur. L'espace d'un instant trop court pour être mesuré, j'eus la même impression que lorsque le champ de catastrophe s'était déployé autour de nous à bord du vaisseau désemparé, celle d'un fœtus en train de se débattre dans une poche de liquide amniotique. Puis nous fûmes de l'autre côté. Le soleil avait disparu. La lumière du jour avait disparu. Les rives de la jungle n'étaient plus là. L'eau s'étendait de tous côtés à perte de vue. Des étoiles en nombre, d'une magnitude que je n'aurais jamais pu imaginer et encore moins observer, remplissaient un ciel qui paraissait bien trop vaste. Droit devant nous, éclairant aîné comme autant de projecteurs orangés, il y avait trois lunes, chacune de la taille d'une bonne planète.